Vous écoutez RTL.
François Fillon, merci d'être venu dans le studio Jean Farran à RTL pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je vous en pose une rapidement avant de démarrer. On n'a pas l'habitude de le voir battre sa coulpe pour faire des mea culpa. C'est le cas de Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Le mea culpa de Nicolas Sarkozy sur son comportement, vous y croyez ?
Oh ben, j'ai pas de raison de ne pas y croire. Et puis, je trouve ça très bien. Je pense que un responsable politique doit tirer tous les enseignements de son histoire personnelle, de ses échecs et de ses réussites. Sinon, pourquoi se proposer à nouveau au suffrage des Français ?
En l'occurrence, c'est votre histoire commune. Puisque
oui, bien sûr.
Pendant 5 ans, vous avez été son Premier ministre.
Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que je dis dans mon livre que je n'ai pas à revendiquer son bilan parce que c'est le sien, mais je n'ai pas à le critiquer non plus parce que c'est le nôtre.
Et bien, la question du bilan, elle va revenir avec cette première question de Franck qui nous appelle de Blois. Bonjour Franck.
Bonjour Yves, bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
J'avais une question moi, concernant les 35 heures. Vous proposez de les supprimer. Or, vous avez été au pouvoir de 2002 à 2007 et vous ne l'avez pas fait. Et en plus, vous avez déclaré dans Le Monde en décembre 2007, je vous cite, « L'abrogation des 35 heures est tout simplement impraticable. » Donc, après autant de contradictions, pourquoi est-ce que je vous ferais confiance à vous ou Nicolas Sarkozy pour supprimer ces 35 heures ?
Pour une raison très simple, c'est qu'en 2007, justement, nous ne sommes pas engagés à supprimer les 35 heures. En 2007, nous avions estimé avec Nicolas Sarkozy, peut-être à tort, ça c'est votre jugement et c'est le mien au fond, parce que je pense qu'on a eu tort, mais on a considéré que les Français n'accepteraient pas la suppression des 35 heures, et on a préféré proposer à l'époque la défiscalisation des heures supplémentaires. L'idée, c'était que, en favorisant les heures supplémentaires, on allait généraliser le passage à 36, 37, 38, 39 heures, et que, dans un deuxième temps, on pourrait passer à la suppression des 35 heures.
Vous nous dites quoi ? On a manqué de courage ?
On a considéré
et
que
qui
les Français...
est responsable ?
C'est une responsabilité collective. Je veux dire, moi, j'ai participé à la rédaction de ce programme et j'ai adhéré à l'idée que les Français n'étaient pas prêts à accepter la suppression des 35 heures. Je pense, et d'ailleurs, c'est mon jugement général sur le quinquennat, que nous n'avons pas pris tout de suite la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays. Alors, c'est bien pire pour François Hollande, parce que lui a considéré qu'il n'y avait pas de crise du tout. Mais les mesures qu'on proposait en 2007 étaient courageuses, mais n'étaient pas à la hauteur de la gravité de la situation.
Mais votre engagement sur les 35 heures à la lumière du livre que vous publiez est un engagement solennel, François Fillon.
Il est d'autant plus solennel qu'il n'y en avait pas eu avant. Donc quand on dit « vous n'avez pas fait ce que vous aviez promis », c'est juste faux. Il suffit de regarder le programme de 2007 pour se rendre compte que, à quelques exceptions près, notamment la réforme du lycée sur lequel on avait reculé pour des raisons de mouvements sociaux dans les établissements scolaires, on a tenu les engagements qui avaient été pris en 2007. Mais ces engagements n'étaient pas suffisamment puissants pour redresser la situation.
On va donner la parole maintenant à Sylvie en remerciant Franck de sa question qui nous appelait de Blois. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour Yves, bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
Bonjour. Ma question en fait concerne les retraites, parce que dans les mesures que vous proposez, donc vous envisagez de faire passer donc le départ en fait en retraite, donc de 62 à 65 ans. Alors ma question est la suivante, j'en aurai plusieurs, mais bon...
On va en prendre une pour l'instant.
Déjà dans un premier temps, en fait, y aurait-il une progressivité ou alors passer d'emblée, en fait, de 62 à 65 ans ?
Non, bien sûr, il faut qu'il y ait une progressivité. D'ailleurs, on l'a toujours fait de cette manière. On est passé de... on a d'abord commencé par augmenter la durée de cotisation. C'est moi qui l'avais fait en 2003. Puis on est passé de 60 à 62, mais de façon progressive. C'est-à-dire qu'on augmente de plusieurs mois par année ou par trimestre. Il faut le faire, évidemment, de façon progressive pour ne pas créer des effets de couperet pour des catégories de personnes.
Les régimes spéciaux, vous comptez vous y attaquer ?
Moi, je propose, dans les questions référendaires que je voudrais poser en septembre, qui suit l'élection présidentielle, le principe de l'égalité en matière sociale, en matière de retraite, entre le public et le privé.
C'est-à-dire comment vous allez faire avaler ça aux fonctionnaires ?
Vous le faites d'abord voter par les Français. Et croyez-moi, si on posait aujourd'hui la question aux Français, est-ce que vous êtes pour l'égalité publique-privée en matière de retraite, je pense que la réponse sera majoritairement positive. Et une fois que les Français sont prononcés, il faudra bien que tout le monde l'accepte.
Si les Français vous disent non ? Est-ce que ce n'est pas une remise en cause? Non, parce que je vais au bout de votre scénario.
Oui, c'est un risque à prendre.
Ça veut dire que vous avez eu tort de leur poser la question.
C'est un risque à prendre, mais c'est quand même toujours mieux d'interroger les Français. Et honnêtement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la réponse à cette question-là.
Il peut aussi y avoir des blocages. Ça existe, les grèves, les minorités qui font des grèves.
Oui, bien sûr, mais il faut les affronter. Et d'ailleurs, si on regarde le passé récent de notre pays, on a tendance à exagérer les blocages. En 2003, quand j'ai conduit la réforme des retraites qui visait à harmoniser les durées de cotisation du public et du privé, déjà, il y a eu 4 millions de personnes dans la rue, mais finalement, il n'y a pas eu de blocage. Et pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a jamais eu de blocage. Il y a eu des mouvements sociaux, mais il n'y a jamais eu de blocage. Je pense que le pays a beaucoup changé et qu'on a tendance toujours à vivre avec une image qui est une image décalée.
Vous répondiez à Olivier Mazerolle, mais les cheminots, ça s'est bloqué la France. Hein.
Pas longtemps. Quand vous regardez les choses depuis 5 ans, vous n'avez pas d'exemple de... Autrefois, on avait des vrais blocages où le pays était paralysé et au bout d'une semaine, le gouvernement ne pouvait pas tenir et lâchait. Si vous regardez le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'exemple d'un blocage qui ait conduit le gouvernement à lâcher, sauf... Je l'ai dit tout à l'heure sur les lycées, parce que la question des mouvements sociaux dans les établissements scolaires est un sujet particulier. Et en plus, je rappelle qu'on a fait voter le service minimum dans le transport qui permet de rendre plus difficile le blocage du pays.
Merci Sylvie de nous avoir appelé depuis le département du Morbihan. On donne maintenant la parole à Yann, qui lui est conseiller municipal près de Mont-de-Marsan. Bonjour Yann.
Bonjour Monsieur Calvi.
Vous êtes élu républicain ?
Oui, tout à fait. Élu les Républicains dans une petite commune des Landes.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Fillon, et en même temps membre de la commission commerce et développement de la commune. Monsieur Fillon, j'ai une question à vous poser concernant le temps de travail. Vous nous expliquiez qu'il fallait passer peut-être sur le temps européen de 48 heures, qui est un temps maximum de travail par semaine. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On parle aujourd'hui des 35 heures, des 39 heures, des 40 heures et de tout ce qu'on veut. Mais avant qu'on parle d'heures de travail, faudrait-il déjà que nos concitoyens, ces gens qui nous ont élus et mis en place, aient du travail? Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est la préoccupation majeure des Français.
Vous expliquez
quelle
dans
est
votre...
Solution
vous...
Oui.
Pardon, excusez-moi, je vous laisse terminer votre question.
Oui, quelle est votre solution, Monsieur Fillon, pour redonner de l'emploi? Alors, avant qu'on revienne au plein emploi, je pense qu'il va falloir un petit moment, mais quelle est votre solution pour redonner de l'emploi à nos concitoyens français?
Et je précise que dans votre livre, vous expliquez qu'on n'est pas libre dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs.
Bien sûr. D'abord, je ne propose pas de passer à 48 heures. Je propose de renvoyer à la négociation dans les entreprises le temps de travail dans les limites européennes de 48 heures. Mais personne n'envisage de passer à 48 heures. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de travail en France? Il n'y a pas de travail en France parce que les entreprises françaises ont un mal fou à vendre des produits qui soient compétitifs en raison des coûts de production. Il n'y a pas de travail en France parce qu'il y a les 35 heures. Il n'y a pas de travail en France parce qu'il y a trop d'impôts. Il n'y a pas de travail en France parce qu'il y a trop de réglementations, parce que le code du travail fait 3000 pages et que quand vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise, vous préférez le faire en Grande-Bretagne, en Belgique ou je ne sais où les réglementations sont moins importantes. Donc... il faut commencer par libérer l'économie française si on veut atteindre le plein emploi. Pourquoi est-ce qu'il y a le plein emploi en Allemagne? Pourquoi est-ce qu'il y a le plein emploi aujourd'hui en Grande-Bretagne avec quasiment entre 5 et 6% de chômeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a le plein emploi aux États-Unis? Il y a le plein emploi dans pratiquement tous les pays d'Europe du Nord. Parce qu'il y a moins de réglementation, moins de taxes et plus de liberté d'innovation. Car un des autres sujets que j'essaye d'évoquer dans mon livre...
Et vous pensez que les Français sont mûrs? Parce qu'en fait, vous leur proposez un risque aussi.
Moi, je pense
moins
qu'ils sont
mûrs. Moins de protection pour plus de liberté.
Je pense qu'ils sont mûrs parce que je les rencontre tous les jours dans le cadre du Tour de France que j'ai engagé. Mais on peut prendre la question différemment. Si on ne le fait pas, la situation va continuer de se dégrader. Ça sera plus 6 millions de chômeurs, ça sera 7. Ça sera plus 2 millions de jeunes qui sont quasiment dans la rue, ça sera 3. Et il y a un moment où le corps social va se révolter contre un pouvoir qui est incapable de lui apporter des réponses.
Merci Yann de nous avoir appelé. On donne la parole maintenant à Michel qui souhaite interroger François Fillon. Bonjour Michel.
Bonjour Monsieur Caduy, bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
Je dois d'abord préciser que je suis un électeur traditionnel, soit des Républicains ou de l'UDI, de ce qui est maintenant les Républicains. J'ai voté Nicolas Sarkozy en pensant que beaucoup de choses changeraient en 2007. Je me prépare pour 2017 en ne sachant pas quoi faire en fonction de la politique étrangère de la France vis-à-vis de la Russie, puisque moi-même, je suis né ici, mais je suis d'origine polonaise, donc j'ai des avis très, très tranchés sur la question.
Je comprends, oui.
Et si vous voyez ce que je veux dire, donc, par rapport à mes candidats traditionnels qui auraient été éventuellement, mais peut-être plus maintenant, Nicolas Sarkozy ou M. Fillon, quelle serait votre position vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui reste quand même, hein, par-delà les relations diplomatiques qu'on peut avoir avec la Russie, un ancien KGBiste?
Quelle relation avec la Russie, en particulier Vladimir Poutine, François Fillon?
Bon, la question de la qualité des dirigeants russes, pardon, malheureusement, la Russie est un pays qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais vécu en démocratie. Et M. Poutine est certainement un ancien du KGB, mais enfin, je n'ai pas le souvenir que ses prédécesseurs étaient des libéraux et des gens plus attachés aux principes démocratiques. Donc il faut faire avec la Russie telle qu'elle est et espérer qu'elle évolue. Le problème pour l'Europe, c'est que la Russie est sur le même continent que nous. C'est notre partenaire. Et c'est un pays extraordinairement puissant en termes de taille de géographique, en termes de ressources naturelles. Et c'est en plus un pays qui a un rôle absolument clé à jouer dans la solution du conflit qui est pour le moment la principale menace qui pèse sur nous, qui est l'affaire du Proche-Orient et l'affaire de la Syrie. Donc depuis le début, je demande qu'on ait une relation équilibrée avec la Russie, parce qu'on a besoin de la Russie pour régler la question de la Syrie. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout ce que fait Vladimir Poutine et son gouvernement. Ça veut dire qu'on doit être réaliste. Se mettre dans une situation de conflit ouvert avec la Russie, je pense que c'est totalement irresponsable.
Donc, Vladimir Poutine est un partenaire?
Mais n'importe quel chef de gouvernement russe est un partenaire. On a des relations diplomatiques extrêmement bonnes avec le gouvernement chinois. Est-ce que le gouvernement chinois est démocratique?
Ce qui m'a frappé, c'est que dans votre livre, on s'est bien entendu avec Staline contre les nazis. Poutine, c'est quand même pas Staline.
Exactement.
Olivier Mazerolle. La dictée fait son retour obligatoire. Hein, ça vient d'être annoncé par Najat Vallaud-Belkacem dans nos écoles. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, François Fillon?
Que la sagesse revient, alors, si je comprends bien, au ministère d'éducation
dictée
nationale.
Dictée quotidienne.
Quand on regarde l'orthographe de la plupart de nos concitoyens, on se dit que c'est pas inutile.
Dernière question avant de nous séparer. Votre livre paraît lundi aux éditions Albin Michel. Il s'intitule Faire. Vous vous donnez combien de temps pour remonter la pente? Parce que pour l'instant, vos deux adversaires ont 30 points d'avance sur vous.
Le premier tour de la primaire de la droite et du centre, c'est au début du mois de novembre 2016, Monsieur Calvi.
Merci François Fillon d'être venu nous parler de votre almanach, si je comprends bien, sur l'antenne d'RTL et discuter avec nos auditeurs.